9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
AVS à votre santé, je reçois ce matin le docteur Loïc Etienne. Bonjour et bienvenue sur Beurre FM.
Bonjour.
Vous êtes médecin urgentiste depuis presque 4 décennies, vous êtes un des pionniers de la e-médecine et vous venez de publier « Les sorciers du futur, l'intelligence artificielle pourra-t-elle nous guérir ?» aux éditions Marabout. Vous avez créé un système d'intelligence artificielle qui s'appelle Medvir, un système révolutionnaire qui permet et qui aide notamment les médecins de SOS Médecins à Paris à prendre des décisions. Et vous avez créé en 1987 un des premiers systèmes Minitel, un des premiers services de médecine Minitel. Et vous aviez répertorié à l'époque les mots qui étaient les plus tapés et les plus recherchés par les personnes qui parlaient de médecine. Aujourd'hui, quand on parle du coronavirus, quels sont les mots qui sont le plus tapés?
Vous savez, en fait, ce qui se passe, c'est que notre système, nous, il part des symptômes qui sont les mots qui sont exprimés par les gens. Et en fait, les gens utilisent des mots comme j'ai fièvre, courbature, toux, etc. C'est-à-dire des symptômes assez simples. Nous ne sommes pas un moteur de recherche comme le fait Google. Donc, c'est-à-dire que Google pourrait répondre à cette question en disant quels sont les
mots les plus recherchés.
Les mots les plus recherchés. Nous, c'est un système qui résonne à partir des symptômes. Je précise, malgré tout, une petite précision, c'est que le système expert que nous avons fait a été testé et utilisé donc à SOS Médecins Paris, mais il n'est pas dans le pipe de SOS Médecins Paris qui n'utilise pas de système de régulation d'intelligence artificielle qui utilise des médecins régulateurs, nous avons fait donc des tests assez nombreux à la fois à la Riboisière, également aux urgences de Casablanca, et donc on sait que ce système est performant. Et donc son rôle, si vous voulez, c'est simplement de poser des questions exactement comme le fait un médecin. De la même façon, donc il va vous demander est-ce que vous toussez, est-ce que c'est sec, est-ce que c'est gras, est-ce que vous avez des courbatures, et en fonction des différents symptômes que vous ressentez.
Donc là, c'est de la toux.
Alors là, c'est de la toux. Vous voyez, ça, moi, j'ai une trachéite. Ça, c'est très clair. Je ne reviens pas de Chine. Donc, a priori, je ne suis pas quelqu'un qui risque de présenter un cas de coronavirus. Mais comme on sait qu'effectivement, il y a petit à petit une épidémie qui est en train de se répandre, mais qui se répand. Il y a énormément de... Enfin, moi, je ne suis pas virologue, je ne suis pas infectiologue, donc c'est à ces personnes-là qu'il faut demander très précisément où en sont les choses. Ce qu'on sait, c'est que ce virus, il est finalement développé de façon assez rapide, mais en ce moment, en Chine, il est en train de diminuer. Donc, vous savez, c'est comme l'épicentre d'un séisme. Plus on s'éloigne, plus on s'éloigne dans le temps, moins le risque est important. Donc, nous trouvons donc dans vraisemblablement une décroissance, mais il est évident que en ce moment, le virus a franchi les frontières. Il est en Italie, il est en France. On a un certain nombre de cas qui ont été confirmés, et donc qui montrent qu'effectivement il y a une progression, mais on pense, on espère du moins, que cette progression va petit à petit diminuer, puisque vous savez que le temps d'incubation de ce virus est de 14 jours.
Les médecins urgentistes ont été, depuis le départ de la crise, en première ligne, notamment ceux qui répondent au numéro d'urgence le 15. Comment est-ce que le nombre d'appels a évolué ces dernières 48 heures ?
Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez à la fois la grippe qui est là, qui donne des symptômes exactement les mêmes, et vous avez les infections respiratoires toutes bêtes. Vous avez, vous voyez, moi j'ai une trachéite, je tousse, j'ai pas de fièvre, et si je pourrais effectivement me dire ah là c'est dangereux, je risque d'avoir un coronavirus. Donc, vous avez énormément de signes respiratoires. Parce que nous sommes dans une période où tous ces symptômes sont évidents, sont là. Mais c'est pas pour autant que vous êtes à la fois porteur et à la fois contagieux, et à la fois que vous risquez d'avoir un coronavirus. Donc il y a beaucoup d'inquiétudes, il y a beaucoup d'angoisse, hein, et ça se comprend, mais de fait, il n'y a pas une quantité astronomique, si vous voulez. On a 17 cas, je crois, qui ont été confirmés. Il y a eu 2 morts, on a eu 700, un peu plus de 800, presque 800 cas investigués, je crois, à peu près, mais il y a eu 700 cas qui ont été exclus. Vous voyez, donc on est dans une période d'incertitude, parce que on n'est pas encore dans la phase de décroissance, mais on va y venir. Et la seule chose qu'il faut bien comprendre, c'est ce qui est important, ce sont les mesures à tenir, et surtout de savoir que quand on a des signes respiratoires, c'est-à-dire de la toux, de la fièvre et une gêne respiratoire, il faut rester chez soi et appeler le 15. Vous savez, c'est la seule chose véritablement importante.
C'est ça qu'on a compris. Mais finalement, aujourd'hui, le 15 est saturé. Donc, qui doit appeler aujourd'hui le 15?
Ah ben, si vous appelez le 15, vous trouverez dans le flux de tous les appels. Mais vous finirez bien par avoir quelqu'un au téléphone. Même si le 15 est saturé, ils finissent par répondre aux appels. Et puis vous avez des numéros. Il y a un numéro qui est un 0800 que je n'ai
pas. Alors je l'ai. C'est le numéro de délestage qui a été mis en place par le gouvernement. Voilà. C'est un numéro vert pour les questions non médicales au cours du virus, hein, autour du coronavirus. Donc c'est le 0800,
voilà.
130.
0800 130 000.
Voilà. Donc c'est ce numéro-là si vous avez des questions. Donc finalement,
sinon vous avez également le site du gouvernement.fr avec un info coronavirus qui est gratuit, qui est ouvert de 9h à 19h, qui permet de donner des renseignements sur ce qu'il faut faire. Ça ne va pas vous dire que vous avez un risque, si vous voulez, ça va vous dire exactement tout ce qu'il faut faire.
Il y a énormément d'informations qui circulent, et notamment des fake news autour de la maladie. Comment est-ce qu'on doit s'informer en cas de virus qui arrive comme le coronavirus, pour avoir une bonne information?
Vous avez de toute façon déjà les sites officiels. Hein. Il faut faire confiance. Nous avons un système de santé qui est extrêmement performant en France, avec dans lequel il n'y a aucune manipulation de la part de quiconque. Donc, quand vous avez des informations sur les sites gouvernementaux, comme celui que je vous ai dit, ou sur ce numéro, vous êtes certain que l'information est une information certaine, réelle, mais au moment où les choses se passent. Il faut comprendre, c'est que nous avons toujours du retard parce que le virus ayant une durée d'incubation de 14 jours, nous avons à chaque fois 14 jours de retard par rapport aux nouveaux cas. C'est ça la problématique. Donc, comme la maladie évolue, on est obligé de, on ne peut répondre que sur ce qu'on sait au moment où les choses se passent.
D'accord. Mais vous, docteur Loïc Etienne, comment est-ce que vous reconnaissez une fake news en matière de santé?
Vous savez, c'est très difficile d'arriver à savoir ce qu'il en est. On est quand même bien informé à la fois par nos confrères, à la fois par les alertes que nous avons. Nous avons à SOS Médecins, le président de SOS Médecins pourrait vous le dire, que nous avons des recommandations qui sont faites. Nous avons reçu des masques de façon à nous protéger. Il y a donc des tas d'éléments qui nous sont fournis pour que nous arrivions justement à comprendre l'évolution de la situation et avoir une conduite adaptée. Alors, quelles sont les fake news? Vous savez, les fake news, vous en avez énormément. Alors, vous en avez une, ce serait un virus qui a été fait par les Américains pour lutter contre les Chinois. Bon, alors, on est plus dans le domaine du fantasme que dans le domaine de la réalité. Mais c'est en général surtout sur des... Les fake news, c'est surtout sur essayer de trouver les causes, d'imaginer des causes un peu perverses, et en se disant, voilà, c'est ça qui s'est passé, il y a une manipulation. Et on est toujours dans cette... Surtout qu'il y a une catastrophe, vous avez énormément de gens qui s'emparent de ça pour déverser leur fantasme ou leur idée, mais qui n'ont strictement aucun rapport avec la réalité. Alors, des fake news... On ne les comprend que finalement une fois qu'on les a examinée, qu'on les a passées au crible de la raison, qu'on s'est renseigné auprès des autorités compétentes, auprès des virologues, auprès des infectiologues, et c'est eux qui sont en charge directe de ce virus, qui sont capables de répondre précisément à des questions en disant ça c'est vrai, ça c'est faux. Nous sommes en première ligne puisque nous voyons les patients, mais malgré tout nous sommes en sur le plan de la connaissance du virus, nous ne sommes pas en charge directe, ce sont les infectiologues et les virologues, et c'est eux qui sont en mesure de dire ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai et ce qui est douteux.
Alors comment ça s'attrape finalement le coronavirus?
Le problème, c'est que c'est une contamination aérienne. Contamination aérienne, ça veut dire que à partir du moment où vous avez quelqu'un qui est à moins d'un mètre de vous, il risque d'avoir des gouttelettes de salive. Pour vous en rendre compte, il suffit de regarder les films où vous avez deux personnages qui se parlent et qui se parlent dans le froid. Et ben, vous voyez que quand ils se parlent dans le froid, ils font de la vapeur. Ouais. Et cette vapeur, on voit très bien à l'écran que cette vapeur, c'est environ, ça va jusqu'à peu près 70 cm. Donc si vous êtes à plus de 70 cm, théoriquement, vous n'avez pas ces gouttelettes de salive que nous avons tous, que nous émettons tous quand nous parlons. Donc c'est donc un premier moyen de se contaminer. Il peut y avoir une manière également, ce qu'on appelle manuportée, c'est-à-dire par l'intermédiaire des mains. Alors ça, c'est pour ça que les règles d'hygiène sont très importantes. Vous êtes atteint, par exemple, de ce virus, vous allez tousser dans votre main, et puis vous allez poser votre main sur la table qui est à côté. Le virus peut rester, théoriquement, vivant pendant 3 heures. Donc si vous arrivez derrière et que vous-même vous portez votre main à votre visage, vous êtes potentiellement capable de l'attraper. Mais la contamination immédiate, elle est véritablement par voie aérienne. Et c'est ça qui pose un problème parce que toutes les vapeurs que nous émettons se répandent dans l'atmosphère, et c'est pour ça que vous avez des wagons entiers qui ont pu être contaminés ou un bateau dans lequel vous avez eu des contaminations parce que le virus il se répand partout. C'est ça qui angoisse et qui fait que il y a une psychose en ce moment. Mais c'est pas, je ne peux pas dire que c'est une psychose absurde. Hein. C'est véritablement une crainte. Mais ce mode de transmission, qu'il soit aéroporté ou manuporté, montre malgré tout que le nombre de cas pour les gens qui sont dans les pays où on se protège bien, il est faible. Il est quand même faible. Donc on n'est pas encore dans une pandémie absolument monstrueuse. Hein. Il faut quand même bien le dire. Il faut être vigilant, il faut être prudent, bien sûr. Il faut prendre des mesures que nous prenons tous. D'ailleurs, se laver les mains, vous voyez, c'est quelque chose de tout à fait simple. Se laver les mains, ça nous protège aussi bien de la grippe que du coronavirus, que de toute infection de type viral, parce qu'il n'y a pas que la grippe et le coronavirus, vous avez énormément de virus différents qui risquent de nous atteindre. Donc le fait en période hivernale de se laver les mains régulièrement, ça c'est un premier point. Deuxièmement, quand on tousse ou quand on éternue, de ne pas mettre sa main devant sa bouche mais d'éternuer dans son coude, vous voyez, ce sont deux petites mesures très simples et qui permettent d'éviter une contamination ou du moins de limiter une transmission de ce virus si jamais on en était atteint.
Mais pour la contamination aérienne, ce que vous avez dit dans les pays où on se protège bien, comment est-ce qu'on peut se protéger de cette contamination aérienne ?
Alors vous avez, pour ça, vous avez les masques. Hein. Alors vous avez différents types de masques. Les masques, vous avez les masques chirurgicaux les masques qu'utilisent les médecins. Ce sont des masques qui sont destinés à nous protéger. Donc ça, c'est vraiment réservé aux professionnels de santé, de façon à ce que nous-mêmes ne soyons pas atteints. Et puis vous avez les masques qui sont les masques.
Alors, ces masques chirurgicaux, aujourd'hui, ils sont, on peut les utiliser combien de temps? Ça dure combien de temps, la protection?
3 heures, pas plus de 3 heures, c'est à usage unique. On ne peut pas s'amuser à le laver, etc.
D'accord.
C'est un masque qui doit être utilisé, c'est à peu près 3 heures, hein.
D'accord.
Mais, c'est un masque de protection qui est véritablement un masque de sécurité de très haut niveau. Et puis vous avez les masques qui sont, puisqu'ils ont des niveaux de filtration variables, si vous voulez, les masques qui sont vendus à usage du grand public, c'est des masques qui sont on appelle ça des masques à usage médical de type 2, qui filtrent à peu près 98% des bactéries et des virus, et ceux-là, en fait, ils sont utilisés de façon à éviter de contaminer les autres si jamais on était atteint. C'est donc une mesure. Quand vous voyez quelqu'un qui se balade dans la rue avec un masque, ça ne le protégera pas, lui, des autres, mais lui, si il était atteint potentiellement, il évitera de contaminer les autres. Donc c'est une mesure citoyenne. Et quand vous avez quelqu'un avec un masque, il ne faut pas se fiche de sa tête, il faut peut-être le remercier au contraire, en lui disant qu'au moins il évite une propagation si jamais il était atteint.
D'accord, mais ça ne vous protège pas vous-même si vous n'êtes pas atteint.
Il faut des masques
de l'attraper.
Ah non, il faut des masques haute protection qui sont des masques chirurgicaux qui doivent être utilisés de façon très 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 précise, qui sont utilisés en milieu hospitalier pour se protéger de la tuberculose ou d'autres maladies de ce type-là.
Très bien. Le docteur Loïc Etienne est avec nous jusqu'à 10h. Vous pourrez lui poser vos questions dans un instant si vous en avez au standard 01 53 48 3000. 01 53 48 3000. Je vous laisse aller boire un coup, docteur, et on revient dans un instant.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Avec le docteur Loïc Etienne qui est avec nous, médecin urgentiste depuis presque 4 décennies, puis vous êtes un des pionniers de la e-médecine et vous venez de publier « Les sorciers du futur, l'intelligence artificielle pourra-t-elle nous guérir ?» aux éditions Marabout. Parmi les fake news qu'on a entendues sur le coronavirus, il y a ce fameux spray anti-coronavirus, mais ça c'est une arnaque, ça n'existe pas, hein.
Non, tout ça, c'est des, ça, ce sont des choses qui sont du domaine de la, la fake news, c'est évident. Si ça existait, il y aurait aucune propagation du virus, c'est évident. Par contre, ce qu'on trouve, on a des informations qui sont assez récentes. Vous en avez une, par exemple, qui est parue hier, bon, qui demande bien sûr une confirmation, mais il semblerait que certains antipaludiens de synthèse, c'est-à-dire des médicaments qui sont utilisés contre le paludisme en zone 2, donc on appelle ça la chloroquine, ce médicament aurait montré une certaine efficacité contre le virus. Alors c'est un petit peu un hasard, bien sûr, mais on s'est rendu compte qu'il y avait une parenté entre les antigènes, c'est-à-dire la tête du virus, hein, si vous voulez, pour simplifier, et puis les capacités de la chloroquine de pouvoir casser, si vous voulez, certaines portes que possède le virus, et donc d'essayer de le détruire. Donc c'est pas un vaccin, bien entendu, mais c'est un moyen, et on pourra trouver peut-être au fur et à mesure, de façon peut-être aléatoire, des médicaments qui pourront peut-être le faire, mais le problème, qui pourront agir contre le virus, mais on n'en est pas là. Pour l'instant, il n'y a pas de traitement connu, étiologique, donc de la cause. Il n'y a pas de traitement connu actuellement.
Bon, cet antipaludique, c'est une vieille molécule en plus, hein, c'est pas un traitement.
Oui, tout à fait. Alors, il faut maintenant regarder est-ce que c'est vrai, est-ce que ça marche, est-ce qu'il y a des, ça date d'il y a 2 jours, vous voyez. Donc, on est véritablement, comme je vous le disais tout à l'heure, on est au jour le jour, on est en train de suivre au jour le jour un phénomène qui se passe devant nos yeux, dont nous sommes malheureusement les victimes, ou du moins les cibles, et sur lequel, nous avons peu de moyens organisés d'agir, sauf des moyens de prévention qui sont ceux que je vous ai donnés et qui sont vraiment à respecter, pas dans la parano, mais à respecter pour le simple bon sens. Et c'est quelque chose qu'on devrait faire pendant tout l'hiver. Pendant tout l'hiver, on devrait faire ça, ne serait-ce que pour se protéger de la grippe.
Alors, la chloroquine, hein, ça s'appuie sur des travaux de chercheurs chinois, hein, qui ont publié déjà les premières recommandations. Aujourd'hui, sur le coronavirus, ce sont les Chinois qui ont la plus grosse expérience. Donc,
Qu'est-ce qu'on peut au centre.
Voilà, qu'est-ce qu'on peut tirer de ces deux mois d'épidémie aujourd'hui?
Écoutez, ça, alors là, moi, je suis pas en mesure de vous dire quelles sont les conclusions que l'on pourra tirer. Ça, c'est vraiment lorsque l'épidémie sera terminée que les virologues et les infectiologues pourront faire un bilan, qu'on pourra comprendre également ce qu'est ce coronavirus. Parce que le coronavirus, en fait, il provoque des tas de... C'est pas un virus nouveau.
C'est quoi un coronavirus?
Ben, c'est un virus qui donne des infections respiratoires, mais souvent, hein, d'ailleurs, on n'en a pas, ou parfois rien du tout. Hein, vous avez des coronavirus qu'on se transmet, mais qui n'ont strictement aucune gravité. Hein, c'est comme le virus pour le rhume du cerveau. Vous voyez, vous avez des gens qui l'attrapent et des gens qui ne l'attrapent pas, et ça n'a pas de gravité en soi. Le problème qu'il y a avec le Covid-19, enfin avec ce coronavirus qu'on a isolé, c'est que il provoque des signes. Au départ, il commence avec des signes banaux, assez simples, voilà, comme une grippe, voilà, avec des courbatures, des maux de tête, une toux, un mal de gorge, on se sent pas bien, on est fatigué. Vous voyez, exactement comme si vous aviez une infection grippale banale. Ce qui se passe, c'est que commence à arriver en général entre le 5e et le 10e jour à peu près, arrivent des signes qui sont des signes inquiétants parce que c'est des signes de détresse respiratoire. On a du mal à respirer et à ce moment-là, la personne rentre dans un état de détresse respiratoire qui va nécessiter d'abord un isolement, bien sûr, pour éviter de contaminer tout le monde, et puis en même temps une assistance respiratoire de façon à aider ces personnes à respirer. Et ce qu'on voit, c'est que ces personnes-là, eh bien, il y a peu de cas quand même. Hein. Il faut pas oublier que nous avons, quand on regarde les chiffres qu'il y a en France, hein, on a actuellement, il y aurait deux morts, enfin deux décès. Deux personnes sont mortes du coronavirus. En Chine, c'est de presque 2800. Vous voyez, il y a une différence considérable, puisque on voit que entre le moment où le virus a démarré en Chine, et malgré toutes les mesures de confinement qui ont été faites, peut-être avec retard, mais qui ont été faites, ben, le virus s'est essaimé par les moyens de transport, et donc a essaimé. Alors, pourquoi en Italie il y a 11 morts? Pourquoi en Corée du Sud il y en a 12? Pourquoi en Iran il y en a 19? Voilà, la question de l'Iran par exemple est une question qui peut se poser. On peut se demander comment ce virus est passé. Il y a donc dû y avoir des trous dans la raquette, hein, donc des moyens que le virus a trouvé pour passer les frontières et mais bien sûr porté par des gens. Hein. Le virus il vole pas. Hein. Il a besoin d'être hébergé chez un hôte. Et cet hôte, il se trouve malheureusement que c'est un être humain.
Est-ce qu'on sait pourquoi finalement le virus, qui est banal dans la plupart des cas, va évoluer d'une différente façon chez certains patients?
Alors, on ne sait pas encore bien ce qu'on. C'est-à-dire, on découvre au jour le jour. Hein, ce qu'on dit un jour peut être faux le lendemain. Hein. Ce qu'on sait, c'est que c'est un virus qui a potentiellement la capacité de muter, comme le virus de la grippe. Mais pour l'instant, il mute pas. Il a l'air d'être assez stable, et de ne pas bouger. Il est stable. Bon, il est comme je vous l'ai dit dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, il est capable de donner des signes importants pour lesquels nous n'avons pas d'explication autre que le fait qu'il a donc une capacité de rentrer dans nos cellules respiratoires et de se développer à une vitesse terrible et de faire exploser toutes les cellules respiratoires. Et c'est ça qui fabrique le risque de contagiosité, vous voyez, et la virulence. Donc on en est là. Comment ça va évoluer actuellement, c'est très difficile de le dire. On pourra le savoir une fois qu'on sera à distance. Et alors là, peut-être, il faudra faire un vaccin, mais faire un vaccin, ça prend du temps. Ça prend forcément du temps.
Alors vous parliez des mains tout à l'heure. Est-ce que le fait de porter des gants, ça change les choses ou pas?
porter des gants, ben, si vous portez vos gants, que vous les mettez sur une surface où il y, y a une contamination, où le virus a contaminé une surface, et que vous, avec vos gants, vous portez votre gant à la bouche, ça ne changera rien. Mmh. Ça n'aura pas de, il n'y aura pas de conséquences. Ce sera, vous aurez de toute façon, vous allez l'attraper. Que ce soit, que vos mains soient protégées ou pas protégées. Vous voyez, le fait de porter un gant, ne vous évite que ça aille sur vos mains, mais si vous mettez votre gant à votre bouche, ben, et qu'il y a le virus, vous risquez bien entendu d'être contaminé. Donc le gant ne sert pas à grand chose. Le lavage des mains régulier, ça c'est essentiel. Tout le temps, il faut essayer de le faire très régulièrement. Vous allez aux toilettes, vous lavez les mains, vous préparez à manger, vous lavez les mains. Vous voyez, il y a des tas de rendez-vous au cours de la journée, au cours desquels on a toutes les raisons de se laver les mains. Ben, il faut les utiliser, il faut ritualiser un petit peu ce lavage de mains qui diminue le risque d'attraper un virus et l'avoir en mode manuporté, hein, c'est-à-dire en touchant une surface contaminé et en mettant le virus à sa bouche. Mais ça ne protège pas du virus aéroporté, c'est-à-dire celui que l'on reçoit lorsqu'on est à proximité d'une personne qui est contaminée avec ce mètre de distance que je vous ai dit. Donc, c'est pour ça que quand on est dans cette période-là, bah, il faut éviter de faire des bisous. Il faut essayer de se garder un petit peu.
Alors, il ne faut pas se faire de bisous, mais est-ce qu'on se serre la main, par exemple? Oui.
Ben, si on se serre la main, il suffit d'être logique, hein. Si la personne est contaminée, hein, et que vous lui serrez la main, deuxième condition, et troisième condition, que vous mettez votre main à votre bouche, effectivement, vous avez un risque de contamination. C'est évident. Donc, soit vous dites, tant qu'il y a l'épidémie, ben, je ne touche personne. C'est une façon de se comporter, hein, et vous limitez forcément le risque de contamination. Mais si vous le faites, si vous avez une attitude normale, ce n'est pas pour autant que vous serez contaminé. Vous voyez, c'est une simple question de bon sens, hein.
Alors, il y a des questions qui reviennent souvent. Je vais lui poser en batterie. Par exemple, est-ce qu'on peut être infecté par la nourriture, par exemple?
Alors, le virus peut rester dans l'eau, survivre dans l'eau, dans un milieu aqueux, et donc on pourrait envisager effectivement d'avoir une transmission par la nourriture. Pour l'instant, de ce qu'on sait, de ce que j'en sais, pour l'instant, il ne semble pas que la nourriture soit un vecteur direct. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on on voit, que tous les produits qui viennent de Chine et qui sont vendus ne présentent strictement aucun risque.
Donc jusqu'à présent, pas de cas.
À ma connaissance, non. Mais vous savez, tous les jours, on en apprend tous les jours. Tous les jours, ça bouge et ça change.
L'eau. Alors donc, est-ce que ça peut être transmis par l'eau, puisque vous avez dit que ça pourrait survivre à un milieu aqueux?
Oui, théoriquement. C'est un risque théorique.
D'accord. Par un colis, une lettre, puisqu'on a vu beaucoup de gens qui se sont mis à se méfier.
Le virus, il vit 3 heures en dehors d'un être vivant. Donc, la lettre mettant plus de 3 heures à arriver, le risque, il est théoriquement nul.
Vous dites un être vivant, par exemple, si on a un animal domestique,
Non. Non, c'est une contamination interhumaine. Le virus, si vous voulez, un virus, comment ça se passe? Un virus, il a besoin pour se diviser, pour se repliquer, enfin pour vivre et se développer, hein. C'est pour mettre son droit de vivre aussi, hein. Il a besoin de rentrer dans une cellule, et une cellule qui est une cellule cible. Il se trouve que les cellules cibles respiratoires sont une cible potentielle pour ce virus. Alors qu'est-ce qu'il fait le virus? Il rentre, il pénètre à l'intérieur, il fournit ses particules virales, donc qui sont les éléments de sa signature génétique, enfin les éléments qui le caractérisent, et il va pénétrer à l'intérieur de cette cellule respiratoire, il va s'incorporer à l'intérieur de notre ADN, enfin de l'ADN de cette cellule, et finalement, que va faire cette cellule? Ben, elle va fabriquer des petits virions, des tout petits virus. Ces petits virus vont se multiplier à très très grande échelle, puisque je ne sais pas quelle est la vitesse de multiplication du virus, mais enfin de ce virus-là, mais on sait qu'un virus peut doubler en quantité toutes les 4 heures. C'est-à-dire que petit à petit, vous avez une charge, on dirait une charge virale extrêmement importante. Et donc, ça va rapidement atteindre des cellules de plus en plus nombreuses. Et quand le nombre de virus devient extrêmement important, la cellule, elle meurt, elle explose, d'où à ce moment-là les signes respiratoires que l'on a. C'est pour ça qu'on tousse, c'est pour ça que on a des mucosités, et ces mucosités justement sont pleines de particules virales que l'on risque de transmettre. Et si ce qui se passe, ça c'est pour tous les virus, hein, ce qui se passe en plus pour le coronavirus, c'est que lui, il entraîne en plus une gêne respiratoire très importante en raison de la violence, si vous voulez, de la virulence qu'il porte en lui. Et c'est pour ça qu'il fait peur, parce que il a atteint des personnes. Les personnes qui sont mortes sont des personnes qui n'avaient pas qui n'avaient pas de maladie particulière et qui ont été vraiment terrassés par ce virus, parce que il se développe très vite, il a des capacités de nuisance très importantes, parce qu'il va atteindre des cellules respiratoires en nombre très très élevé.
Alors il y a un test pour être dépisté?
Non. Pour l'instant, on met en isolement, on fait des prélèvements. Et puis on va pouvoir au fur et à mesure on va pouvoir parce qu'il faut faire des cultures sur des milieux assez complexes, ça se fait pas en 5 minutes, hein. Il n'y a pas un test comme on a un test pour l'angine par exemple, vous voyez, c'est pas
qui permettrait de savoir si vous êtes positif ou pas au coronavirus.
On n'en est pas là. Notre connaissance de ce virus est insuffisante. Il est vraisemblable que le temps qu'on mette au point quelque chose, l'épidémie se sera arrêtée, mais on aura sa signature. On saura de qui il s'agit, comme on l'a su pour le SARS ou pour le MERS.
D'autres épidémies qui ont précédé, en fait.
Voilà, qui ont précédé en 2002, je crois, pour le SARS, et donc pour lequel on sait très bien de quel virus il s'agit, on l'a étudié, on a compris son mode de transmission, ça a permis aux scientifiques de mieux comprendre comment les virus, ce type de virus fonctionne, leur létalité, c'est-à-dire la capacité qu'ils ont de tuer des gens. Donc on comprend au fur et à mesure, à chaque épidémie, on comprend un petit peu mieux ce qui se passe.
Bien.
Mais on est toujours soumis à au fait qu'à chaque fois qu'il y a une infection virale, comme la grippe, à chaque année, vous savez, on fait un vaccin contre la grippe qui a une efficacité plus ou moins importante et qui est fait sur des souches de souches d'années antérieures et dans lesquelles on essaye de prévoir, de se dire, il va muter de telle façon et donc on va préparer un vaccin qui est vraisemblablement la souche qui va nous atteindre. Alors parfois, c'est très bien, on s'est pas trompé et
on est dans le mille.
Un vaccin extrêmement efficace. Et puis d'autres cas, le vaccin est un petit peu moins efficace. Mais quand même, on est quand même dans des proportions de protection qui sont très importantes.
Alors attendez, Loïc Etienne, voilà, restez avec nous quelques instants. On revient. Loïc Etienne, médecin urgentiste, est avec nous. Si vous avez des questions à poser, eh bien vous pourrez les poser dans un instant au 01 53 48 3000 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, les gens se posent beaucoup de questions sur le coronavirus. On a le docteur Loïc Etienne qui est avec nous, médecin urgentiste depuis presque 4 décennies et qui publie « L'intelligence artificielle pourra-t-elle nous guérir » aux éditions Marabout. Vous-même, les médecins urgentistes, est-ce que vous avez des traitements préventifs aujourd'hui?
Ben non, nous n'avons aucun moyen, si vous voulez, spécifique, mais pas plus que le reste de la population, de nous protéger. Le seul moyen que nous avons, comme nous allons voir des patients à domicile, et nous ne savons bien entendu pas à qui nous avons affaire, donc nous avons le seul moyen de protection, ce sont des masques qui nous permettent de nous protéger de toutes les sécrétions qui pourraient venir d'un malade potentiellement infecté, mais sachant que la probabilité que ce patient soit infecté est extrêmement faible. Il faut quand même rappeler que à peu près, je crois qu'il y a eu à peu près 800 cas, hein, un petit peu moins de 800 cas qui ont été investigués dans toute la France, et le nombre de cas confirmés, c'est moins d'une vingtaine. Donc vous voyez, la probabilité de tomber sur un coronavirus, elle est très faible. Mais elle existe. Et comme c'est un virus qui a quand même entraîné des décès importants, puisqu'en Chine, ils sont, je crois, 2800 à peu près. Donc c'est-à-dire que c'est un virus qui est assez dangereux. Forcément, on a cette inquiétude. Mais vous savez, nous, on fait notre travail, on y va, on se protège, mais on n'a aucun traitement préventif.
Pas d'huile de nigel, pas d'ail, pas de bain de bouche, pas de...
non.
Pas de solution saline, pas de...
Les solutions hydroalcooliques, ça c'est indispensable. Le lavage des mains, solution hydroalcoolique, le masque, ça c'est le moyen que nous avons pour nous protéger quand on va voir un patient. Alors évidemment, un patient qui a, on ne le porte pas systématiquement, on le porte quand il y a un patient qui potentiellement a des signes respiratoires, il a de la fièvre, il a de la toux, mal à la gorge, etc. Ce qui est quand même beaucoup de cas, puisque nous sommes en période hivernale et vous avez plein de gens qui ont des infections respiratoires ou la grippe ou autre chose.
Donc ça, c'est pas la même chose. On parlait des animaux tout à l'heure. On a parlé d'une origine animale du virus.
Alors, on pense, si vous voulez, là encore, on ne sait pas très très bien. Il y a la part des fake news là-dedans qui rajoute un petit peu de confusion. On pense que, par exemple, le pangolin qui est utilisé comme viande de nourriture par les Chinois pourrait être un réservoir intermédiaire. De la même manière que pour le SARS, je crois que c'était la civette, je crois, qui était l'animal intermédiaire. Donc il y a en fait un virus qui est porté par des animaux et qui est transmis à l'homme, mais il se trouve que ce virus maintenant a une contamination interhumaine. Il ne se transmettrait pas d'un individu à un autre. Eh ben, on ne serait pas contagieux et donc on pourrait tomber malade, mais on ne le transmettrait pas à la maladie. C'est le problème que la maladie est transmise.
D'accord. Aujourd'hui, donc, il y a un temps d'incubation de 14 jours.
14, oui, à peu près.
Est-ce qu'on est contagieux pendant cette période d'incubation ou pas?
Ah ben, on est contagieux, bien sûr, pendant cette période, mais on peut être un porteur sain. Vous avez des gens qui peuvent ne pas avoir de signes et pourtant être porteurs du virus. Et pouvoir potentiellement contaminer une autre personne. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette période d'abord est très courte, et deuxièmement, donc un jour, deux jours à peu près, avant que les signes apparaissent, et deuxièmement, du fait qu'il y a peu de signes, c'est-à-dire peu de toux, il n'y a aucun signe, ce qu'on dit c'est asymptomatique, c'est-à-dire sans symptômes, ça veut donc dire que le virus il a pénétré dans les cellules, mais il ne s'est pas encore suffisamment développé, donc il n'a pas fait de dégâts, et de ce fait, il n'a, bien qu'étant à l'intérieur du système respiratoire, la quantité de virus qui va sortir est très faible. De ce fait, le risque est limité. Donc, un porteur sain, il y a bien entendu un risque, hein, c'est un risque théorique, mais il faut que les virologues confirment cette hypothèse, mais vraisemblablement, la probabilité d'être contaminé par quelqu'un qui a des signes, qui n'a pas de signes, elle est très très faible. Alors, effectivement, après, une fois que le virus s'exprime, là, effectivement, il y a un risque.
Vous êtes un spécialiste de l'intelligence artificielle et de la e-médecine, de la santé connectée. En quoi est-ce que cette technologie peut nous aider à appréhender et à faire face à une épidémie comme celle que nous vivons actuellement?
Alors, vous avez une application qui a été faite par une société qui s'appelle Blue Dot, qui avait trois mois avant le coronavirus avait modélisé un type de virus avec une transmission qui se serait passée en partant de Chine, etc. Alors, comment ça se passe? C'est-à-dire qu'ils ont interrogé, c'est un système qu'on appelle le connexionniste, c'est-à-dire ils récupèrent des tas de données, des tas de data, ils les croisent avec des modèles mathématiques, et toutes ces données, ça peut être aussi bien des informations qui ont été transmises par les gens, ce que les gens disent sur les réseaux sociaux, mais également des observations médicales, et ils sont arrivés à envisager qu'il y ait une contamination. Donc ça veut dire que cette IA, cette intelligence artificielle, a pu prévoir qu'il y aurait, prévoir ce qui pouvait se passer en cas d'infection. Mais ils n'ont pas prévu qu'il y aurait un coronavirus. Vous voyez, il y a simplement des signes qui leur ont fait dire ah tiens peut-être. Ils ont vu ça donc en fin décembre. Ils ont dit ben voilà, nous avons une information qui nous font dire que il est possible qu'il y ait en Chine un virus qui émerge. Mais ça ne veut pas dire qu'on a trouvé le virus. Vous voyez, il faut bien préciser les choses. Ça, c'est une façon effectivement dans laquelle l'intelligence artificielle peut intervenir pour modéliser des épidémies. Et essayer justement, à partir, aussitôt qu'on a des signes d'alerte, et en particulier ce qu'on appelle des signaux faibles, des petits signes infimes, être capable de dire, oula, ça correspond à un modèle que nous avons envisagé, et donc de lancer l'alerte. C'est du même type que la météo. Vous voyez, ce sont des modèles.
C'est une prévision, voilà. Ouais.
C'est une prévision. Mais ça ne va pas vous dire, oui, il va y avoir le 31 décembre un virus qui va s'appeler le Covid-19. Voilà, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est la possibilité de modéliser. Également, ce qu'on peut faire grâce à l'intelligence artificielle de façon beaucoup plus simple, mais une fois que l'épidémie s'est propagée, c'est de pouvoir mettre à disposition de la population un système expert qui va vous poser des questions et qui, en fonction de vos réponses, non seulement sur vos signes, mais également sur le fait est-ce que vous revenez de Wuhan, est-ce que vous revenez d'Italie, est-ce que ceci, est-ce que cela, donc un certain nombre d'informations qui sont données par les gens, on peut à ce moment-là se dire cette personne-là, c'est un cas possible, parce que théoriquement, il est possible que. Et donc à ce moment-là, la directive, c'est de dire restez chez vous, ne sortez pas, ne touchez personne, appelez le 15, c'est tout.
Ça c'est le message. Ça, à ce moment-là,
voilà, c'est le message. Donc en fait, c'est ce que nous avons fait avec Medvir, puisque nous avons mis ça en place il y a déjà un mois. Donc le système est capable de d'envisager des cas possibles simplement par l'interrogatoire. On est en mesure de le faire. Ben ça, ce serait des mesures généralisées qui généralisées auprès de la population pourraient permettre en cas d'épidémie déjà d'avoir une traçabilité, parce que on pourrait savoir où se trouvent les foyers. De quelle nature sont ces foyers, et avec un interrogatoire assez précis, on pourrait avoir une cartographie. Alors c'est donc ça, c'est de l'intelligence artificielle, ce serait à mettre en place. Le problème, c'est que pour le mettre en place, il faut une volonté politique. Et donc une volonté politique, bah vous savez, on est toujours pareil en France, et nous avançons lentement.
Bien, et le reste est dans votre livre, docteur Loïc Etienne. Ça s'appelle « Sorcier du futur, l'intelligence artificielle pourra-t-elle nous guérir ?» aux éditions Marabout. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Soignez-vous bien, docteur.
Merci.
Et à bientôt sur Beurre FM.
Beurre FM, bien plus qu'une radio.